Organisé par le collectif agricole d'Huile-Dieu, la fête de la bio aura lieu le jeudi 18 juillet de 18h à 22h à la ferme d'Émilie. Georges Biraud, bonjour.
Bonjour Roland.
Tu es le président du collectif agricole.
Oui.
Christy Cohen, bonjour.
Bonjour.
Tu es membre du collectif agricole et tu es conso-actrice. Gilles Lepil, bonjour.
Bonjour.
Tu es producteur de safran sur l'Île-Dieu.
Oui, tout à fait, et membre du collectif agricole, secrétaire également.
Sur l'Île-Dieu, en pourcentage, quelle surface agricole est cultivée en bio? Georges, Christy ou Gilles?
On ne va pas donner la surface, parce que ça ne voudrait pas dire grand-chose, étant donné qu'entre un maraîcher, les surfaces utilisées pour un maraîcher et les surfaces utilisées pour un éleveur sont complètement différentes. Mais il y a 4 agriculteurs en bio aujourd'hui sur l'Île-Dieu. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas en bio, mais qui sont, on va dire, nature. Quoi. Enfin,
quels producteurs sont en bio alors sur l'Île-Dieu?
Alors, les producteurs qui sont en bio, il y a 2 maraîchers, hein, les champs du Suède, la bergerie, ensuite Lionel qui a fait les poulets fermiers, et Émilie Sage, voilà,
la ferme d'Émilie. Qui vous accueille pour cette fête de la bio.
Voilà, que j'allais oublier.
Cette production de produits bio ilaise est en augmentation, stagnation ou diminution?
Elle est plutôt en augmentation, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui s'installent aujourd'hui s'installent en général en bio. Et ceux qui se sont installés et qui ne sont pas en bio, comme je disais tout de suite, là, en fait, ils utilisent très très peu, ou même pas du tout parfois, de produits phytosanitaires. Gilles pourra le dire, hein, il n'en utilise pas du tout pour le safran. Les petites beurtounes pour les vaches, ils élèvent leurs vaches de manière tout à fait naturelle. Il n'y a aucun produit chimique, phytosanitaire qui est utilisé sur les prairies où broutent les vaches. Il y a juste en fait pour l'élevage des veaux. Et c'est ça qui les bloque en fait pour avoir le label. C'est que pour pouvoir donner du lait en poudre pour les veaux, il n'y a pas de lait en poudre bio. On n'en trouve pas dans le commerce. Donc, ils sont obligés de prendre le lait qui existe et il n'est pas bio, donc ils ne peuvent pas avoir le label bio. Mais ce n'est pas pour ça que, pour tout le reste, ils respectent les contraintes de la bio. Et on peut leur faire confiance à Julien et Bénédicte. C'est vraiment des amoureux de la nature et de leurs vaches et ils n'ont pas du tout envie d'utiliser des produits phytosanitaires. Et je crois que pour la plupart des gens, de toute façon, la plupart des producteurs, presque tous les producteurs aujourd'hui, on va dire sur l'Île-Dieu, tout le monde veut être de plus en plus nature, parce que aussi il y a une demande de la population. Hein.
Population illaise et touristique.
Oui, absolument, les deux. Oui.
Gilles Lepil, on l'a dit à l'instant, tu es producteur de safran sur l'Île-Dieu en bio. Simple ou pas pour toi cette production de safran en bio sur l'Île-Dieu?
Disons que moi je cultive selon les méthodes de l'agriculture biologique, mais je ne suis pas labellisé. C'est aussi la grosse différence qui existe entre ceux qui sont certifiés par un organisme référencé. Moi, ce n'a pas été mon cas puisque c'est une culture relativement récente et donc je n'avais pas fait la démarche de me faire labelliser dès le départ.
Tu n'as pas le label AB, le principal label bio en France?
Voilà, c'est ça. Il existe différents labels, mais enfin celui-ci, je ne l'ai pas sollicité. Maintenant, ça ne veut pas dire que ma culture utilise des entrants phytosanitaires ou chimiques ou quoi, ou qu'est-ce en fait. Hein. La totalité de la production se fait de façon naturelle, on va dire, c'est-à-dire des herbages manuels, pas d'engrais chimiques, pas de choses comme ça quoi, en fait. Hein. La transformation que je fais maintenant aussi depuis un an, c'est-à-dire les produits dérivés du safran qui sont essentiellement des gelées de fruits, de la biscuiterie, des terrines de poisson, etc., eux sont sans aucun entrant non plus quoi, en fait. Hein. Mais je ne suis pas labellisé, quoi, donc je ne peux pas me revendiquer de l'agriculture biologique.
Gilles Lepil, il y a plusieurs types de labels bio en France, explique-nous.
Oui, en fait, il y a différents organismes certificateurs qui sont notamment Écocert, le majeur organisme pour les agriculteurs, hein, mais il existe aussi l'Eurofeuille, qui est lui un label européen, et non pas simplement français. Et puis il existe d'autres organismes qui certifient d'autres producteurs, qui sont notamment Déméter et puis Nature et Progrès, quoi, en fait. Hein.
Le label européen Eurofeuille est moins exigeant que le label bio français. Pourquoi, Georges?
Parce que, de toute façon, historiquement, le label bio a été en avance. avait des contraintes très importantes parce que, historiquement, Nature et Progrès, dont qu'on vient de mentionner, existait bien avant le label bio.
Hein. C'est le label AB, quoi.
Oui, le label AB. Les agriculteurs bio, ils existent depuis un siècle. Et les premiers, c'est Steiner avec la biodynamie, ça a aujourd'hui un siècle. Mais c'était quand même, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui disaient, on va dans le mur, on ira dans le mur en utilisant trop de produits chimiques pour l'agriculture et la façon dont on cultive aussi. Donc, Nature et Progrès s'est beaucoup développé après la guerre et une partie des adhérents de Nature et Progrès ont quitté cette organisation quand le label AB a été créé en France. Mais ils ont été à l'instigation de ce label. Et donc, c'est...
Des précurseurs.
Ils ont été des précurseurs, puis c'est eux qui ont mis les contraintes aussi, des contraintes importantes qui n'existaient pas forcément dans les autres pays. Alors évidemment, pour faire un label européen, qu'il faut que tout le monde se mette d'accord, malheureusement, on sait bien ce que c'est. Au lieu de tirer vers le haut, souvent, on tire vers le bas. Hein. Et puis, bah, y a tous les lobbies qui font pression... Les méthodes de commercialisation, de production ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et au niveau européen, il y a une tendance à diminuer les contraintes. Par exemple, pour donner un tout petit exemple, hein, qui n'est pas forcément significatif, mais avant, un agriculteur, s'il était en bio, tout devait être en bio. Il ne devait pas avoir une partie de sa ferme qui aurait dit, ben là, je fais des céréales, mais elles ne sont pas en bio. Et puis le reste, je fais du maraîchage qui est en bio. Non, il fallait que tout soit en bio. Aujourd'hui, avec le label européen, il y a des possibilités de faire ça. Donc voilà, c'est pas tout à fait... Pour nous, c'est pas tout à fait normal. Bon, mais c'est déjà mieux que d'avoir des pesticides sur ces aliments, quoi.
Christy Cohen, tu consommes beaucoup de produits bio ?
Personnellement, oui, je consomme effectivement le plus possible de produits bio.
Simple ou pas simple de consommer bio ?
Pour moi, c'est relativement simple parce que je vis seule, j'ai pas une grande famille. Et du coup, je peux aller chez les producteurs d'ici quand ils ont de quoi offrir, de quoi vendre. Ce qui est quand même de plus en plus le cas sur l'île-Dieu. Hein, c'est-à-dire qu'avant, l'hiver, on ne trouvait rien. Et maintenant, oui, en termes de légumes, on arrive à trouver. Et donc ça, c'est très bien. Oui, je consomme effectivement plutôt du bio.
Tu consommes bio et circuit court, en t'écoutant parler.
Oui, sauf que ça m'arrive aussi d'acheter au Super U, comme tout le monde, quand j'arrive pas à trouver tout ce qu'il me faut. Et puis, je dois dire que je suis pas non plus complètement cohérente. Hein. C'est-à-dire que si je vois quelque chose qui me plaît, des avocats qui viennent de l'autre bout du monde, bah, ça m'arrive d'en acheter aussi. Bon, j'essaye plutôt que ce soit du bio, mais à ce moment-là, c'est pas forcément bien non plus. Hein. Du bio qui vient en avion, c'est pas terrible. Donc, je reconnais mes insuffisances. Mais j'essaye d'acheter bio et local le plus possible. Si c'est pas bio, en tout cas, c'est local si possible, parce que j'estime que c'est ça qui, en tant que consommatrice, doit me revenir. C'est-à-dire, c'est ma responsabilité de soutenir les producteurs bio, parce que sinon, j'en aurais pas. Sinon, il n'y aura pas de bio local.
Vaut-il mieux consommer circuit court local non bio que acheter bio, par exemple, en Espagne ou au Brésil ?
Nous, on est pour acheter au maximum local. Si on veut manger bio pour, disons, protéger sa santé et qu'on va aller faire venir des produits bio du Brésil et que par ailleurs, ça va être producteur de gaz à effet de serre qui vont faire augmenter la chaleur et qui vont nous donner des coups de soleil et qui vont nous empêcher de vivre correctement et qui vont nous envoyer à l'hôpital, comment est-ce qu'on protège notre santé ? Donc peut-être que c'est à chacun de répondre à cette question.
Gilles, alors, la réponse ?
Ouais, moi, personnellement, je préfère acheter local.
Oui, et non bio ?
Oui, si je ne trouve pas l'équivalent en bio.
Moi, Gilles. Personnellement, parce que producteur, oui, mais consommateur aussi. Donc automatiquement, c'est vrai que moi aussi, je favorise les produits bio, les produits locaux. Si possible, de conjuguer les deux, c'est très bien. Maintenant, effectivement, je préfère acheter un producteur que je connais bien, qui n'est pas labellisé ou qui est raisonné, plutôt que d'acheter à la limite du bio de grande surface sous barquette plastique. Parce que ça, c'est une aberration aussi qui existe dans les magasins. C'est qu'en fait, on a un surplus d'emballage, en fait. fait qui est lié au fait qu'on souhaite distinguer les produits bio des produits qui sont conventionnels. Et du coup, on se retrouve avec des barquettes, des cellophanes et tout un tas d'emballages qui entourent ces produits-là, quoi, en fait. Hein. Donc, quelque part, on essaye d'être vertueux pour le respect de la planète, hein, mais à côté de ça, on est en train d'utiliser du plastique et autres dérivés de pétrole pour pouvoir distinguer les produits bio des autres.
Quoi, en fait. Christy Cohen, même question.
Concernant les déplacements, bon, c'est sûr que la mondialisation et le commerce international aujourd'hui est à l'origine de bien des problèmes en termes d'écologie, hein, de réchauffement climatique, mais à tout point de vue, c'est-à-dire effectivement ça implique des emballages, des stockages, etc., de la consommation d'énergie. Mais en dehors de ça, il y a aussi le fait que lorsque moi, en tant que consommatrice, j'essaye de consommer bio et local, c'est pour toutes ces raisons-là, mais c'est aussi pour favoriser la biodiversité. C'est-à-dire que, et tout est lié, hein, transport, dégradation de l'environnement, etc. Le bio permet de mieux protéger. Je ne dis pas que c'est parfait, j'en sais rien, mais en tout cas, ça permet vraiment de mieux protéger la biodiversité, c'est-à-dire les insectes, la vie de la terre, l'eau, l'air, etc. C'est nettement plus propice à une biodiversité équilibrée et vivante que le non-bio, c'est-à-dire que le problème des pesticides, hein, comme on le sait, c'est vraiment la dégradation, on tue des choses. Hein, les pesticides, c'est fait pour seed, hein, ça veut dire tuer. Et donc, ça veut dire que forcément, c'est commode peut-être d'avoir des herbicides, des insecticides, des fongicides, etc. Mais le problème, c'est que ce faisant, on tue aussi la biodiversité. Donc, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la vie de la Terre, c'est mauvais pour l'environnement. Bref, c'est pour ça que je pense qu'en tant que consommatrice, je dois soutenir le bio et le local.
D'autant le circuit
plus,
court.
D'autant plus, je dirais que... Aujourd'hui, en local, à l'Île-Dieu, on n'aura pas de serre chauffée, par exemple. Hein, bio, serre chauffée. On a des serres, parce qu'effectivement, pour pouvoir produire assez tôt les tomates et les légumes, etc., on met des petites serres, on met des tunnels, etc. Mais pas des serres chauffées qui permettent de faire des fraises et des tomates l'hiver. Ça, c'est de l'aberration totale. Or, il y a du bio qui, effectivement, est produit en serre chauffée. Et ça, c'est vraiment à bannir, mais totalement. Hein, on voit ce qui se passe aussi bien en Andalousie qu'autour de Nantes. Il y a des endroits où il y a des serres chauffées tout l'hiver. Bon, bah, ça, c'est vraiment de l'aberration totale. Consommation d'électricité, ça n'a plus rien de naturel. Donc, que ces producteurs-là aient le label bio, pour moi, ça me pose un problème en tant que consommatrice.
La fête de la bio, c'est le jeudi 18 juillet de 18h à 22h. Cette animation existe depuis quand, Georges ?
C'est la quatrième édition.
Quatrième édition.
Voilà.
Merci Gilles.
Nous a semblé que c'était important de faire une initiative.
Un focus.
Oui, un focus sur la bio pour soutenir les producteurs bio. Parce que,
de l'Île-Dieu.
De l'Île-Dieu et puis aussi populariser le bio d'une manière générale. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas évident de passer en bio parce que c'est un coût important pour le producteur. Il faut davantage de main-d'œuvre. Ça demande souvent des formations supplémentaires parce qu'il faut mieux comprendre la vie du sol, la vie des plantes. Il y a un suivi beaucoup plus important à faire. Et tout ça, c'est un engagement qui mérite d'être soutenu, d'être popularisé. Et voilà, c'est aussi ça. Voilà. Et puis, on le fait en faisant la fête.
Ça coûte combien de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio ?
C'est difficilement quantifiable. Ce qu'on peut savoir, c'est que le coût, en fait, pour se faire certifier, il est de 450 euros par an, à peu près. Hein. Je dirais que ça, c'est une somme, hein, surtout lorsqu'on démarre. Après qu'on l'a intégré dans la rotation de son activité, c'est absorbable. En revanche, ce qui est difficilement quantifiable, en fait, c'est la production rendue pour une culture qui est traditionnelle par rapport à une culture bio. Là, on sait que les rendements sont moindres en bio. Hein. Et c'est aussi très chronophage. Quand je dis une moindre production, c'est aussi une production de qualité, mais c'est aussi, prenons un exemple simple, un producteur de céréales qui va faire des traitements chimiques, etc., va peut-être avoir un rendement de 20% supérieur, hein, mais il va avoir dépensé je ne sais combien de frais de pesticides en parallèle, en fait. Hein. Et moi, ce que je pense aussi, c'est, là, je me fais un petit peu peu, je me mets un peu à la place de Christy en tant que consommatrice active, c'est que tout ce qu'on ne paiera pas au médecin parce qu'on n'aura pas consommé de pesticides, ce sera ça d'économiser et qu'on peut réinjecter dans la nourriture un petit peu plus propre.
Christy.
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Gilles. Effectivement, comme consommateur, on a toujours présent à l'esprit bon, les questions de santé, évidemment. Si on réfléchit un peu plus loin que son domaine domestique personnel ou sa consommation personnelle, il y a aussi toutes les questions de coûts qui ne sont pas pris en compte dans le prix d'achat. C'est-à-dire lorsqu'on achète une carotte industrielle, je vais dire une carotte industrielle même si elle n'est pas en plastique, mais elle a consommé et du pétrole et tout un tas de pesticides. Donc, quand on consomme une carotte industrielle, on ne compte pas dans ce prix tous les effets négatifs de la culture industrielle et de la culture avec des pesticides, c'est-à-dire la pollution de l'eau qui coûte très cher chaque année, la santé qui se dégrade et qui, ça aussi, ça coûte évidemment très cher en dehors du fait qu'on n'a pas envie d'être en mauvaise santé et qu'en plus, on perd en qualité nutritive. Donc, il faut manger plus pour avoir la même quantité de nutriments. Je ne parle pas de calories, mais de nutriments, c'est-à-dire de ce qui est vraiment utile au corps, que la chimie du corps est capable d'ingérer, de transformer et donc d'utiliser à bon escient pour avoir une bonne vie et une bonne santé. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Après, il y a aussi un autre, quand on parle de prix, si on achète en bio, parfois on a l'impression qu'on paye plus cher. Bon, in fine, parce qu'on a moins de problèmes d'environnement et moins de problèmes de santé, on ne paye pas forcément plus cher. Mais dans l'immédiat, l'étiquette montre un prix plus élevé, parfois, pas toujours, parce qu'il y a des entreprises, des agriculteurs bio qui arrivent à produire en très grande quantité parce que les rendements peuvent quand même atteindre des niveaux très élevés. Ça dépend des méthodes de culture. Après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on paye cher. Sauf qu'il faut voir que si on ne paye pas cher ou si on ne paye pas le juste prix pour que le paysan puisse vivre, et le paysan en bio, il a effectivement des coûts et des rendements parfois inférieurs, eh bien, on n'a plus de bio. C'est-à-dire, on continue d'importer 35% aujourd'hui des légumes et 57% des fruits, je crois, si je ne me trompe pas, ou 55%. Donc ça, c'est quand même incroyable. En France, on n'est pas capable de produire nos propres produits sur le plan local, en bio. Ça paraît pas possible.
Importation en bio, 57,4% des fruits,
voilà.
Pour être précis, Christy. Qu'allez-vous proposer comme produit à la dégustation durant cette fête de la bio, Georges, Christy ou Gilles?
Ben, on va proposer les produits habituels, c'est-à-dire les produits que font les producteurs bio, c'est-à-dire des légumes, du safran, on va proposer du fromage, du poulet si Lionel en a suffisamment, et puis voilà, ça va être... un petit marché paysan. Et puis après,
c'est vraiment une découverte du bio à Lille-Dieu.
Oui, on veut dire comme ça. Et puis après, on fait des fouets et des sandwichs avec des produits bio que les gens vont aussi pouvoir découvrir en mangeant concrètement.
Et en discutant, et en parce qu'il y a des débats également.
Il y a des débats, c'est-à-dire pas vraiment, mais c'est des discussions un peu...
Informelles.
Informelles.
On se met autour d'une table.
Voilà, c'est-à-dire que c'est la fête de la bio, donc on ne veut pas, disons, passer notre temps à discuter. Les gens viennent pour faire la fête. Essentiellement, c'est les vacances, c'est pas comme la ferme ouverte.
Christy.
Oui, il y a aussi tous les produits de la ferme d'Émilie. C'est-à-dire qu'elle fait des assiettes, elle fait des tas de trucs, enfin je ne m'en rappelle plus très bien quoi, mais elle fait tout un tas de produits, d'assiettes, voilà.
À découvrir donc durant cette fête de la bio, c'est le jeudi 18 juillet de 18h à 22h à la ferme d'Émilie. Côté festif, il y aura de la musique, Georges, Christy,
voilà.
Et Gilles.
Oui, il y aura un groupe de musiciens qui va animer la soirée donc, à partir de 20h, je crois.
19h.
19h même. Et oui, bien sûr, une bonne ambiance assurée, c'est évident. Quoi.
C'est un groupe de jazz qui s'appelle jazz.
Oui, tout à fait, oui.
Des jeunes qui commencent à faire du jazz. Ils vont faire quelques spectacles cette année, mais ils sont un petit peu dans leur début. Mais ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble et ils font de la très bonne musique.
C'est dans la bergerie. Et il faut prendre ses billets à l'avance à l'office du tourisme. On peut le faire sur place aussi, je crois.
Oui.
Mais c'est mieux de le faire à l'office du tourisme.
Et dans le nom de ce groupe, il y a Chicken, qui veut dire poulet.
Poulet.
Oui, Chicken Jazz Factory, en fait.
Ces musiciens sont-ils bio? Est-ce que vous le savez?
On va bien être obligé parce que pour leur faire à manger quand même, on va leur demander s'ils sont bio, végan, végétarien, mangeurs de viande ou quoi.
Cette animation fête de la bio est gratuite hors concert, si j'ai bien compris.
Oui, hors concert, c'est, tout est gratuit. Le concert, c'est 8 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants.
Et c'est le jeudi 18 juillet à la ferme d'Emily, entre 18h et 22h.
Et 22h, et plus pour ceux que ça intéresse.
Voilà. Forcément. Merci Christy, à très bientôt.
Enfin.
Merci Georges, à très bientôt.
À très bientôt Roland.
On rappelle, tu es le président du collectif agricole. Gilles Lepuil, merci beaucoup.
Mais merci Roland de nous avoir reçus.
On rappelle, tu es producteur de safran sur l'île Dieu et membre du collectif agricole. À très bientôt.
Merci.